7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, les coulisses des bistrots français et bien au-delà de nos assiettes, de quoi s'interroger aussi sur la valeur du travail, de l'entrepreneuriat en France. Bref, il y a du rififi dans la French cuisine. Bonjour Xavier de Namur.
Bonjour.
Vous êtes le fortuné propriétaire de 5 bistrots à Paris dans le quartier historique du Marais et vous publiez un essai autobiographique « Et si on se mettait enfin à table ?» Vous racontez vos origines très modestes, votre carrière de bistrotier, travail de forçat, votre détestation des syndicats, surtout la CGT, comment vous avez démarré aussi en arnaquant le fisc et surtout comment vous vous êtes repenti de là à réclamer l'augmentation de la TVA et des logiciels de caisse qui bloquent toute fraude sur le zinc. C'est à se demander si vous n'avez pas rencontré, un coup de foudre pour une inspectrice des impôts. Je me suis posé la question. En tout cas, voilà de quoi se faire des amis dans une profession solidaire ou mafieuse, c'est selon, mais toujours bien mitonné par les gouvernements successifs qui n'aiment pas d'ailleurs se mettre à dos l'un des derniers secteurs non délocalisables, la cuisine. Également dans le studio de RFI, Jean-Paul Géné, JP Géné alias. Bonjour.
Bonjour.
Chroniqueur gastronomique pour le journal Le Monde. Vous aussi, longue carrière à flairer les bonnes adresses frimeuses et la cuisine, pas frimeuse plutôt, et la cuisine inventive. Vous régalez vos lecteurs de vos papiers et de vos coups de cœur et puis en plus c'est sans prise de poids si on se contente de vos évocations littéraires. Ça peut être bien, pas risqué.
J'espère que ça continuera.
Vous écrivez sur Xavier de Namur, il possède les qualités indispensables à un auteur, il aime parler de lui et encore plus se faire remarquer. C'est un peu vachard.
Non mais c'est vrai, s'il est là c'est pas par hasard, c'est qu'il s'est fait remarquer avant.
En fin d'émission, en tout cas, nous serons en ligne également avec le fondateur de Food Chéri. C'est un premier restaurant en ligne à Paris. Et bien sûr, vous pouvez cuisiner un peu cette start-up pour savoir ce qu'elle a dans le ventre, l'un et l'autre. Et quant à vous, les voisins et les voisines, la porte n'est jamais fermée chez nous. Vos réactions, vos questions, si vous le souhaitez, sur le sujet de la cuisine française, des bistrots à la française. 33 1 84 22 71 71, y compris d'ailleurs si vous êtes très loin de la cuisine française. Géographiquement parlant, ça n'empêche pas certaines de voisines d'ailleurs d'avoir le bon sens qu'il faut. Inès à Cotonou au Bénin poste le message suivant. En tout cas, elle s'interroge sur cette histoire de fait maison qui me paraît louche, nous dit Inès. Comment font ces restos pour servir quotidiennement des plats comme la bouillabaisse, réputés pour leur longue durée de préparation? On la fait pas aux cuisinières africaines, hein. Dans un certain sens des réalités. Le fait maison, tiens, justement, ça sera l'entrée du jour chez 7 milliards de voisins. Alors, on parle du fait maison, Xavier de Namur, Jean-Paul Géné, juillet 2014, il y a eu ce décret pour réglementer le fait maison, ensuite mai 2015, nouveau décret, en principe plus clair, plus simple, plus strict. On en est où? Vous voulez bien nous expliquer un petit peu, du côté du chroniqueur gastro, comment vous voyez les choses, vous?
On va pas pouvoir demander à Carole Delguin qui l'a mise en place, vu qu'elle quitte son poste aujourd'hui pour se lancer dans une carrière politique dans le Béarn.
Carole Delguin, secrétaire d'État
au tourisme, et c'est elle notamment qui a rectifié entre les deux décrets. Parce que le premier décret, l'idée du fait maison, c'est la caricature de la bonne idée mal faite. Évidemment, tout le monde, et les chefs comme les clients, les chefs quand ils ont appris qu'en gros 75% de la restauration était de la restauration d'assemblage, achetée dans les grandes surfaces pour restaurateurs, genre Métro, tu connais les autres noms mieux que moi, je veux pas dire que tu les attaches, que tu les fréquentes, mais il y a, comme grand distributeur, il y a Métro.
Alors ce sont, je vais juste rectifier peut-être une chose pour que les auditeurs comprennent, c'est que le premier décret, déjà, on pouvait inclure dedans, en juillet, des surgelés, des pâtes feuilletées industrielles, des plats qui venaient d'ailleurs et qui prenaient, dès qu'il y a le moment où on mettait le nom du fabricant, devenait fait maison, et que depuis le mois de mai, le 8 mai, c'est uniquement des produits crus cuisinés sur place à l'intérieur du restaurant qui pourront être définis comme fait maison.
Des petits pois surgelés, ça marche, ça peut plus rentrer dans un plat fait maison.
C'était un long débat.
Et après, donc juste pour revenir, JP Géné, pour revenir juste sur les questions que vous me posez, c'est que des groupes comme Métro font des produits bruts, des produits frais et des produits industriels. Et il y a des groupes comme Pomona, ou plutôt Davigel ou Break, voilà, qui sont plus spécialisés dans ce qu'on appelle des produits tout fait et des produits d'assemblage. Et pour finir, si je peux me permettre, sur cette ce chiffre de 75% de restaurateurs qui feraient de la cuisine d'assemblage, c'est un chiffre en fait qui est repris sur quelque chose que j'ai lancé à peu près 8 ans. Je disais à l'époque 70% des restaurateurs utiliseraient en tout ou en partie des produits industriels. C'est ce que j'appelle du réchauffer de l'information aujourd'hui, de l'information circulaire, parce que ça ne repose sur rien, sinon le fait de se dire que à peu près les industriels livrent grosso modo tous les restaurants, donc on peut se poser cette question, combien ça fait. Mais il n'y a que les services des fraudes et de l'hygiène qui pourraient, si le gouvernement le désirait, nous donner les vrais chiffres en France. Sauf que le gouvernement ne tient peut-être pas spécialement à savoir ce qui se passe dans les cuisines françaises.
Mais qu'est-ce que c'est cette cuisine d'assemblage, JP Génie? Expliquez-nous pour nos auditeurs à l'autre bout de la planète.
C'est facile à vérifier. Vous allez devant un restaurant ou le bistrot du coin qui vous affiche le chili con carne, la bouillabaisse, l'escalope de saumon, la fondue de poireaux, le poulet à la crème et au morilles, etc. 10 plats, 10 entrées, et vous allez en cuisine et vous regardez combien il y a de personnes.
Ouais.
Et ben, quand il y a deux personnes, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs.
Il a raison, JP.
Et les deux personnes sont généralement, et je le dis, et sont souvent à la destination de nos auditeurs, souvent en provenance du Sri Lanka, d'Afrique, c'est-à-dire qu'elles sont souvent pas toujours en règle avec les papiers et payé avec un lance-pierre, comme on dit. Voilà, ça c'est la côté, c'est la conséquence sociale du fait maison.
Mais à qui on donne très peu de temps pour faire de la cuisine. Donc,
mais ils n'ont pas à faire de la cuisine, ils ont à remettre en température. C'est pas pareil. Pour vous dire sur l'assemblage, c'est vous allez, vous voulez, l'île flottante. Vous allez dans un magasin.
C'est donc un dessert très français, des œufs en neige, des blancs en neige montés avec une crème anglaise
autour, un peu de caramel, etc. Je l'ai vu faire de mes yeux dans une grande brasserie devant la gare de Lyon. Le garçon derrière le comptoir arrive avec les blancs en neige au carré par boîte de 12. Il pose le blanc en neige. Après, il arrive avec la crème anglaise en bidon. Il verse la crème anglaise autour, après il sort une autre bouteille, il arrose un petit peu de caramel tout fait, et puis après dans un autre truc, et là où on confine au sommet du synthétique et du chimique, vous savez, ces petites pastilles de toutes les couleurs qui font joli, il met ça là-dessus, une gaufrette prise aussi dans un magasin, et vous avez une île flottante facturée. Maison.
Non, alors c'était, on peut plus
heureusement.
Alors pour ceux qui vont, les restaurateurs ont le droit de continuer à le faire.
Simplement, mais bien sûr,
ils ne peuvent pas écrire île flottante maison.
Voilà.
Donc, ceux qui ne feront pas du fait maison, on ne saura pas que ça n'est pas du fait maison, parce que enfin, on peut en déduire si on est bien informé que comme c'est pas écrit, eh ben c'est que de la cuisine d'assemblage, mais globalement, sinon le consommateur n'a pas d'information. C'est pas écrit que c'est de la cuisine d'assemblage. Que non, tout est acheté.
C'est plus compliqué que
alors,
ça.
Alors, c'est vrai, vous avez raison, Emmanuel Bastide. Il est clair qu'aujourd'hui, on a légiféré sur... En fait, on a demandé à ceux qui font de la cuisine normale de dire ce qu'ils faisaient. Et donc, on a un logo avec une petite casserole, avec un petit toit de maison qui dit que quand nos auditeurs du monde entier, quand ils viendront visiter la France, quand ils verront ce logo, ils seront garantis qu'on a une cuisine à partir de produits crus, donc pas de cuisine d'assemblage. Ça ne veut pas dire forcément que c'est bon, parce que si vous avez des mauvais cuisiniers derrière, ça peut aussi ne pas être très bon. Mais par contre, ils ont cette garantie-là qu'il n'y aura pas d'additifs chimiques dans leur plat, dans leur préparation, voilà. C'est ce que ça veut dire. Par contre, moi, j'avais demandé, et je demande toujours d'ailleurs dans l'ouvrage que vous avez pu lire, il y a des propositions où je demande d'aller plus loin. C'est-à-dire, je demande que, comme on peut le voir quand on achète un plat dans la grande distribution ou chez son marchand, je demande que soit indiqué pour les cantines partout, si c'est des boîtes, si c'est des produits déshydratés, si c'est des produits tout faits. Je pense qu'il y aurait 4 petits logos. C'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme l'agriculture. L'agriculture normale, celle qui n'utilise pas de produits phytosanitaires de synthèse, de produits chimique, elle doit finalement payer pour dire ce qu'elle fait. Moi, je suis pas favorable à ça. Ouais. Je pense qu'il
donc vous n'êtes pas satisfait de ces décrets globalement, JP Génie. Vous trouvez que c'est un métier où on nage dans les législations ou pas?
Ça, c'est le point de vue professionnel. Encore une règle, encore un contrôle, etc. Il y a deux choses qu'on craint le pire dans la restauration, parce que c'est de la restauration dont on parle aujourd'hui et ailleurs. C'est les contrôles de l'hygiène et les contrôles du fisc. Voilà, ça, c'est les deux dangers. Mais je voudrais revenir sur le fait maison, parce que le problème maintenant, au début, le premier décret rendait l'inscription obligatoire, ce qui a fait hurler tout le monde. Donc on a supprimé ça. Là, c'est pas obligatoire. Donc c'est du, il va du bon vouloir du restaurateur de le de l'afficher.
Donc c'est bien ce que je disais, c'est au consommateur de se méfier.
Non, mais ils vont pas le mettre.
Non, alors
il y en a plein qui vont pas le mettre.
JP,
tous ceux qui font bon, mais quel intérêt ils ont à le dire? Ils disent les clients le savent. Moi je reviens, je viens de passer 5 jours à Nancy.
Vous mettez ou pas vous?
Alors je viens de passer 5 jours à Nancy. Je regardais, je cherchais partout sur les vitrines des magasins. J'en ai vu des restaurants, j'en ai vu deux qu'il avait mis cet été, pareil.
Donc les restaurateurs de qualité boudent.
Ça, c'est encore plus
bon, les restaurateurs.
C'est encore plus compliqué parce qu'il y a une autre association faite par les Trois Étoiles, par Ducasse, qui décerne. Qui décerne un label de restaurant de qualité.
Oui, mais ça marche. Alors, deux choses.
Ça marchera pas non plus.
Ça marche pas du tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y avait en fait ce que dit JP Genet, c'est qu'en fait, il y avait une chose qui était obligatoire, c'était de marquer une phrase qui disait avant qu'un pour la maison était fait à partir de produits bruts. C'est tout ce que ça voulait dire. Mais tout le monde devait la marquer. Ça, c'était la seule obligation. Mais avant, on n'était pas non plus d'obligation de dire c'était fait maison ou pas. On avait cette phrase à marquer chez McDonald's. Partout, c'était le seul truc. C'était complètement aberrant. C'est pour ça qu'on l'a fait sortir. C'était la seule obligation. Mais avant, c'était aussi libre de marquer ou pas le fait maison. Aujourd'hui, effectivement, ce logo, les gens qui vont le mettre vont pouvoir se différencier par rapport aux autres.
Alors vous, par exemple, vous servez une île flottante dans un de vos bistrots, par exemple.
Moi, je mets ce logo. Je l'ai mis en place. Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui,
Donc vous l'utilisez.
Ah, j'utilise depuis qu'il a été bien changé, je mets ce logo et j'invite tous les restaurateurs et les clients à aller que dans les restaurants qui auraient mis ce logo. Si les gens veulent pas le mettre, et la différence c'est que avec le label qualité de Ducasse, c'est que c'est gratuit. Le label qualité de restaurant de qualité de Ducasse, ça coûte 400 euros par an.
Bon, il y a 400 adhérents. Ça expose à des contrôles, alors que le label de Ducasse, il est une promotion, un copinage.
En tout cas, la restauration française, ça suscite tout de suite les passions. Hein, et encore, on n'est que dans le fait maison. On va aborder beaucoup d'autres sujets derrière l'idéologie de la cuisine française. Il y a aussi le service aux clients, ça tous les étrangers s'en plaignent. Il y a aussi tout le fonctionnement économique du secteur de la restauration au cœur du monde des PME. Tiens, d'ailleurs, François Hollande est au salon des PME. Aujourd'hui, on va en reparler. Chez 7 milliards de voisins sur RFI, on parle de la restauration des bistrots français, pas des multi-étoilés, hein, non, de la bonne petite cuisine française, en compagnie de Xavier de Namur et de JP Genet, chroniqueur gastronomique au journal Le Monde. Xavier de Namur, vous êtes restaurateur, vous avez 5 bistrots à Paris, vous publiez Si on se mettait enfin à table. Vous employez parfois jusqu'à une vingtaine de nationalités différentes dans vos bistrots parisiens, des Australiens, des Mauritaniens. C'est marrant d'ailleurs, parce que c'est vraiment pour la quintessence du bistrot parisien. La liste est longue. Trouver du personnel qualifié, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la restauration aujourd'hui, tout comme il y a 20 ans d'ailleurs, ou pas?
Alors, c'est toujours un vrai souci de trouver du personnel, puisqu'en fait, on est une profession où, alors, les auditeurs qui vont nous entendre, en disant, il faut venir tout de suite en France, il y a à peu près 60 à 80 000 postes à pourvoir. On trouve pas de personnel compétent, et c'est bien la problématique.
À l'heure actuelle, il y a 80 000 postes.
Il y a à peu près 80 000 postes dans la restauration non pourvus. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de chercher du personnel. Moi, j'ai un de mes chefs chef qui m'a quitté il y a un an pour ouvrir son propre restaurant, parce que j'essaye de faire en sorte que les gens qui travaillent chez moi aient envie d'entreprendre. Donc j'ai une vingtaine de salariés qui sont devenus chefs d'entreprise, et ce chef qui est un salaud, et il me dit qu'il est désespéré parce qu'il a multiplié par 4 son chiffre d'affaires, donc il cartonne, et il trouve personne pour travailler en cuisine avec lui. C'est-à-dire qu'on est dans cette problématique. Alors c'est
mais
vrai
parce
que
vous recherchez du personnel trop qualifié aussi.
On cherche du personnel qui ait des compétences. Alors nous, on n'est pas comme dans la haute gastronomie, on cherche des gens qui soient capables de dupliquer ou être rapides, d'être compétents aussi pour travailler des produits, savoir travailler en circuit court, des produits bruts frais. Donc alors que souvent les gens, à l'école, on leur apprend souvent à ouvrir des sachets de carottes surgelées. Et juste pour revenir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure, JP Géné, c'est vrai que on a dans la restauration beaucoup d'étrangers, et c'est vrai qu'à des postes, moi j'ai des gens super géniaux, des Sénégalais, des Maliens à la plonge, etc. Sachant que aujourd'hui on n'emploie pas des gens comme il pouvait y avoir avant des gens irréguliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les lois en France, faut qu'ils comprennent, c'est hyper strict, donc c'est quasiment impossible de venir travailler dans la restauration française au black. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très compliqué, non, parce qu'on a vraiment des contrôles. Le patron qui fait ça est vraiment prend des risques colossaux, parce que on doit, avant, quand on a des papiers, les faux papiers, tout ça, ça passe pas. Donc c'est ça, il faut le dire quand même. On a, et donc pour revenir au fait maison, c'est vrai que derrière, moi, ça a fait que dans mon restaurant que j'ai repris il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai multiplié presque par 10 le nombre de salariés.
Oui, alors,
donc le fait maison, c'est du
personnel. Je voudrais qu'on revienne à ces 80 000 postes vacants, parce que...
Et justement,
oui,
à ce propos-là, si on regarde la restauration, l'univers de la restauration, un bout, on a les trois macarons, le luxe et la grande restauration. À l'autre bout, on a quoi ? La restauration collective. Il faut savoir quand même que on a beau avoir un excellent tissu de lycées hôteliers, de centres de formation pour la cuisine en France, que beaucoup d'étrangers nous envient d'ailleurs. Dans l'essentiel des jobs qui vont être proposés à ceux qui sortiront de ces lycées hôteliers, c'est les cantines de la BNP, c'est Air France magasin, Air France à Roissy, etc. Donc 80% c'est ça. Pour le personnel, pour l'autre extrémité, pour le luxe, c'est-à-dire là où on se plaint toujours, mais c'est pas un hasard si Alain Ducasse a fondé son école, si il y a l'Institut Paul Bocuse, les chefs qui sont incapables de s'entendre avec les autorités pour faire une sorte d'ENA gastronomique commune. Qui devrait avoir sa place
d'accord,
en France.
Non, mais là, vous prenez les deux extrémités.
Voilà.
Les garçons de bistrot, les serveurs que vous cherchez, les gens qui travaillent en cuisine dans vos bistrots, c'est pas des bacs plus 10.
Non, mais le problème, il est entre les deux. Ceux qui vont pas dans la restauration collective et ceux qui vont pas dans la grande restauration. Tous ceux qui vont dans les bistrots, tout ça, qui ont une qualification. Bon, ils y vont pas pourquoi ? Les horaires de travail. Les salaires. Et les conditions d'embauche, souvent, c'est quand même à l'arrache, là-bas.
Mais Xavier de Namur, vous écrivez dans votre livre, « Je ne cherche pas une demi-douzaine d'esclaves enfermés dans une cave. Attention, mais des professionnels respectés qui consentent à gagner souvent deux fois plus que le salaire moyen en France, sans compter le repas chaud et les primes. Dans notre pays, des centaines de milliers de Français perdent leur temps et leur morale dans les bureaux de Pôle emploi. Et moi, je perds mon temps et parfois le moral. Ils cherchent du boulot, je cherche des travailleurs. »
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je paye bien mes salariés. Vous voyez, mon chef qui était parti, qui a monté sa boîte, il a fini à 7000 net. Il avait commencé à 2500 euros net. Donc, c'est vraiment des jobs. Et les serveurs commencent chez moi minimum à 2000 net. C'est le salaire vraiment de base. Le mec qui vient de rentrer. Et ils sont souvent à 3500, 4000 quand ils partent.
Pourquoi
ils ont des prix manuels.
Ils veulent pas aller dans la restauration aujourd'hui, alors.
Non, attendez, lui, c'est un cas particulier.
Non, mais
on
les paye. J'ai du mal à trouver des salariés.
Bien
on
sûr.
Passe des annonces.
Ouais.
On a du mal à trouver des gens. Et donc, on les motive en leur donnant des primes, en leur donnant... Faut savoir que dans la profession, normalement, ils ont le droit à 10 jours fériés par an. La plupart des gens dans le métier, ils savent même pas qu'ils ont le droit à 10 jours fériés. C'est la législation en France. C'est-à-dire, dans l'avenant de la convention collective, c'est 10 jours fériés. Mais la plupart des salariés, quand j'arrive, ils viennent passer une embauche chez moi, je leur dis, alors, vous aviez touché ça, c'est pas marqué sur votre pile. Et le mec, il dit, ah bon, on a le droit à ça et tout. Alors, moi, je le marque dans mes annonces pour essayer d'attirer le chaland, c'est le cas de le dire. Eh ben, on a du mal à en trouver quand même.
C'est quand même des métiers durs, on va en parler,
Je m'élève fortement contre la façon dont Xavier de Namur traite son personnel, etc. C'est l'exception. Lui,
On va en reparler. Xavier de Namur, vous restez avec nous. JP Géné aussi. Il y a des cuisiniers, des serveurs peut-être qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous joindre à nous au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes dans les coulisses des bistrots français. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71. Hey.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, dans les coulisses de la cuisine française aujourd'hui, et surtout des bistrots parisiens dont le concept s'est exporté d'ailleurs dans le monde entier. Nous en parlons avec le chroniqueur gastronomique Jean-Paul Genet, J.P. Genet du journal Le Monde, la plume du journal Le Monde pour la cuisine, et Xavier Denamur, vous publiez « Et si on se mettait enfin à table ?» Vous êtes propriétaire de 5 bistrots parisiens au cœur du Paris historique, dans le quartier du Marais. Xavier Denamur, on n'a pas encore vraiment parlé du travail au noir, de toute la triche dans votre secteur, mais j'ai décidé de garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire un dessert flambé sous forme de feu d'artifice. Donc on terminera avec le travail au noir. Non, on va parler d'abord de vos meilleurs amis, les syndicats.
Oui, j'ai pas de problème spécialement avec le syndicalisme et les syndicats. Je peux avoir des problèmes avec des gens qui confondent, je dirais, la défense de l'intérêt général, le syndicalisme, et leurs petits intérêts personnels, et qui sont restés dans ce que j'appelle l'archaïsme de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans un truc où on est syndicaliste, les patrons c'est forcément mauvais, et donc ils vont venir dans les entreprises, souvent en prenant des gens qui sont pas spécialement des salariés, qui sont pas spécialement depuis très longtemps dans la maison, et qui veulent essayer de se protéger. Donc ils ont tout sauf compris que c'était qu'une entreprise. Et donc, du coup, ça peut causer des dommages collatéraux phénoménaux dans les entreprises. Et c'est ça que je dénonce un peu, alors que je pense que la représentativité des salariés, elle devrait être nationale. Je fais d'ailleurs une proposition là-dessus, un peu à la suédoise, à la norvégienne. Tout le monde est syndiqué, et il y a des vrais syndicats en face des organisations patronales qui négocient vraiment dans l'intérêt général.
Qui sont davantage dans la cogestion, par exemple.
Voilà. Oui, moi, je préfère qu'ils soient dans la cogestion qu'effectivement essayer de désinguer le patron.
Mais elle est quasiment inexistante, la représentation syndicale, moins de 1% de l'ensemble du personnel, tout syndicat confondu est syndiqué. Donc, en revanche, quand vous voyez ça et quand vous voyez la réaction d'hostilité, de crainte qu'ont la plupart des restaurateurs face à l'irruption d'un délégué syndical chez eux, il y a aussi cette attitude-là. Autant on peut dire les syndicats sont restés à la lutte des classes, autant on peut dire de l'autre côté aussi, on est resté au paternalisme et au patronat. Il suffit de...
Ça continue d'être une réalité, ça?
Mais c'est la réalité aujourd'hui. Il y a 1% à peine de syndiqués, et principalement dans le personnel des étages, dans les hôtels, etc. Dès qu'on parle de syndicats, c'est comme si on agitait le drapeau rouge devant n'importe quel restaurateur. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des droits qu'ils avaient dans l'hôtellerie-restauration. Depuis quand date l'accès à une mutuelle pour les gens qui travaillent dans les bistrots? Qu'on a créé une mutuelle.
2009. C'est suite à la baisse de la TVA dans la restauration.
C'est lors des...
Voilà. Sous Nicolas Sarkozy. Voilà.
Le gouvernement a dû faire pression, je vous baisse la TVA, et ça a pris des mois de discussions avec l'UMI pour avoir une mutuelle.
Oui, alors.
Vous étiez contre la baisse de la TVA sous Nicolas Sarkozy, vous?
Je pense que les auditeurs seraient intéressés de voir,
C'était censé donner un peu de fraîcheur, un peu d'air pour les restaurateurs, la baisse de la TVA.
J'étais contre, et j'ai expliqué, et les faits m'ont donné raison, que ça allait donner principalement du pognon aux grands groupes. C'est ce qui s'est passé. Vous avez des groupes comme McDonald's, alors qu'ils, soi-disant, ils n'étaient pas concernés par l'affaire. Ils ont pris 200 millions d'euros par an. Quand on voit qu'en plus que depuis 74, ils s'arrangent pour payer le minimum d'impôts en France, on peut se poser des questions. C'était l'intérêt de donner de l'argent aux grands groupes, comme toutes les politiques publiques qui sont menées dans ce pays favorisent toujours les grands groupes. J'invite les auditeurs à regarder République de la Malbouffe. C'est le film que j'ai fait, qui est gratuit en HD. C'est-à-dire que dans le monde entier, aujourd'hui, ils peuvent le regarder gratuitement. Ils comprendront même y avoir une idée du livre. C'est-à-dire cette idée d'être citoyen et d'essayer de défendre autre chose que ce que défend la grande masse.
Vous défendez le droit d'embaucher et de débaucher facilement. Évidemment, ça va pas du tout avec le code du travail aujourd'hui.
Je suis pas favorable à ça.
Non, mais vous dites globalement quand même que...
L'abolition du départ conventionnel.
Vous réclamez plus de souplesse dans le code du travail, quand même.
C'est pas du tout ce que je dis. Moi, ce que je dis, je dis dans mon livre, je suis favorable au CDI. Je veux surtout pas toucher au CDI. Le gouvernement n'y touche pas. Par contre, effectivement, je trouve que c'est une arnaque.
Votre personnel ne convient pas. Souvent, il ne convient pas à votre personnel.
Je suis contre la rupture conventionnelle. Voilà, c'est-à-dire que ça. Je trouve que le système de séparer des salariés à l'amiable, tout ça, c'est un gros bordel. Tout le monde veut se faire virer pour toucher le chômage, ce que j'appelle, travailler au black à côté, toucher, si c'est possible, le jackpot des prud'hommes en passant, etc. Donc, c'était une catastrophe, ça. Moi, je suis pour le CDI. Je me débarrasse pas de mes salariés pour rien. Quand je me débarrasse des salariés, quand on les vire, c'est parce qu'ils mettent en péril le fonctionnement de l'entreprise. Sinon, moi, j'ai plein de salariés qui ont 25 ans de maison. Moi, un salarié, quand il vient chez moi, à part s'il veut monter sa boîte, je tiens à le garder. C'est le patrimoine de l'entreprise. Je vais le garder le plus longtemps, 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Peut-être pas 50 ans, parce qu'ils ont commencé à 20 ans, ils auraient 70 ans. Mais je vais les garder toutes jusqu'à leur retraite, j'ai des salariés qui partent à leur retraite. Je me sépare pas de salariés parce que j'ai un de mes directeurs aujourd'hui qui est devenu directeur, Gilbert Bompard. Il est commencé serveur, il est handicapé. Je m'en débarrasse pas parce qu'il a 55 ans, 52 ans. Je vais pas m'en débarrasser parce qu'il peut plus bien travailler au poste où il avait. Je vais aménager un poste. On les garde jusqu'à la retraite. Donc c'est pas vrai. Je tiens pas à faire que les salariés soient facilement virables. Pas vrai.
Non, mais vous êtes exigeant sur la qualité du personnel et donc ça. Quand ça convient pas, vous dites que parfois vous vous retrouvez quand même, dans votre livre, vous racontez que vous êtes retrouvé beaucoup au prud'homme.
Ah mais j'y étais encore aujourd'hui, on est mercredi, j'étais encore lundi.
Ça se passe pas toujours très bien.
Encore une fois, c'est pas parce que vous allez au prud'homme et quand vous virez les gens quand ils sont mauvais, systématiquement ils vous emmènent au prud'homme, ils gagnent pas tout le temps. Sur 25 prud'hommes, j'en ai perdu 4 en 25 ans.
D'accord, on a compris votre position là-dessus. Xavier Denayer, vous avez commencé, puisque vous parliez du black, vous avez commencé sans un sou comme garçon de café, en amassant des semaines de plus de 60 heures.
Plongeur même.
Oui. Des pourboires, non déclarés, mais ça c'est légal. Et du cash, pas déclaré, c'est-à-dire des heures pas déclarées. Vous avez acheté votre premier bistrot avec du cash non déclaré, et en empruntant du cash aussi, non déclaré, donc pas à la banque.
C'était
il y a 25 ans, ça.
Ouais, c'était il y a 25 ans.
Mais c'est encore comme ça.
Alors c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel on est enfermé, où on a tout. Alors je dis pas que ce modèle est bon, je dis juste mon cas n'est sûrement pas unique. Et je dis juste, c'est un système où vous commencez, j'ai travaillé dans l'agriculture, je binais les champs de betteraves et tout, quand il n'y avait pas encore le Roundup et tout, donc on binait les champs de betteraves, c'était au black. Après j'ai travaillé...
Attendez, vous n'êtes pas né quand même en 1900, non, le Roundup, ça...
Le Roundup, c'est un moment, mais il y a à peu près 40 ans, un peu plus de 40 ans, il y avait moins de désherbants chimiques dans les champs, on binait encore, moi je me souviens avoir fait des longueurs de champs de betteraves et tout ça, on binait enfin.
Non, mais alors, sur le cash qui circule dans la restauration aujourd'hui, un type qui veut monter son petit bistrot, s'il a pas d'argent au noir, il ne peut pas.
C'est compliqué aujourd'hui parce que les affaires sont devenues très chères. Alors après, il y a des affaires qui sont pas très très bonnes.
Une affaire, c'est-à-dire un bistrot.
Mais une affaire à Paris aujourd'hui, souvent, même les dernières fois dans une boulangerie-pâtisserie qu'on voulait me revendre, j'avais pas de cash, je faisais plus de cash à ce moment-là. On me demande un sous-table et si j'ai pas de sous-table, on me dit si vous ne donnez pas de sous-table, on vous la vend pas. Donc quasiment, il faut sortir même de l'argent déclaré de vos caisses pour payer le sous-table.
JP gêné sur cette réalité-là.
C'est la partie que j'ai préférée dans son livre.
Ah bah forcément.
Parce que évidemment. Quand on le sait, on le sait depuis longtemps, combien de fois je suis allé au marché avec un restaurateur qui sortait, qui allait voir la poissonnière, et puis qui sortait, c'était encore l'époque des francs, 5000 francs en pascal, et on lui dit, je vous fais la facture comme d'habitude, et payé en cash, et repartait, et on était dans les deux étoiles.
Non, mais là, aujourd'hui.
Et aujourd'hui, j'ai eu un ami, je savais que ça marche comme ça, mais on le sait. Bon, il n'a pas prononcé le milieu avéronnais, mais par exemple, vous avez des firmes très célèbres, comme Monsieur Tafanel, par exemple, qui règne sur la livraison des bières Coca-Cola dans tous les bistrots, qui est un avéronnais. D'après ce que j'ai lu dans ton livre, tu as emprunté à des avéronnais.
Oui, c'est eux qui sont faits. Parlons d'aujourd'hui. Là, vous dites à une époque,
mais
vous planquiez jusqu'à 40% de votre chiffre d'affaires, voire plus. Pour vous désintoxiquer, vous êtes arrivé jusqu'à 5% seulement du chiffre d'affaires passé sous le tapis.
Puis après, zéro.
Et puis après, zéro, parce que maintenant, vous avez une lubie sur les logiciels de caisse, non, etc. Mais donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes un cas isolé? Est-ce que le cash, le black circule, les heures supplémentaires des garçons, etc., parce que tout d'un coup, il fait beau, les terrasses sont ouvertes, les clients arrivent à flux, il faut vite embaucher quelqu'un très rapidement pour la soirée? Est-ce que tout ça continue à être dans une économie souterraine ou pas?
Oui, alors moi je dis encore une fois...
Au moins 20%.
Le livre...
Au moins 20%, dites-vous, bon, Jean-Paul
Gilles. Vous savez que tout le monde dit ça. Ouais. Si vous faites pas 20% de black, vous êtes pas un bon dans le métier. Ouais.
L'administration fiscale ferme les yeux là-dessus?
L'administration fiscale essaye de faire ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je raconte dans mon livre, c'est que tout le monde s'en doute. Vous savez, c'est un livre où les politiques aussi... Vous savez, les politiques dans les années 80 et tout, ils avaient des valises. Même dernièrement, on a entendu parler des ministres de l'Intérieur qui avaient des valises au black, etc.
Vous ouvrez bien les yeux quand même dans le livre.
Non, mais bien sûr. C'est-à-dire que ce livre, je pense que aucun restaurateur, ce que j'écris dedans, n'avait osé le dire ou l'écrire. C'est vrai.
C'est vrai. Notamment, c'est grâce à ça qu'on a découvert, notamment le logiciel sur les machines à y. Comment ça marche, cette histoire-là?
Il est clair que, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que le système qui a été mon cas dans les années 90 et des débuts des années 2000, c'est pas le bon système. Pour moi, aujourd'hui, un jeune qui veut monter une boîte peut pas y arriver. Et c'est tout un système qui est verrouillé et qui fait qu'on a mis toute une économie souterraine en place et qu'on a développé à cause des politiques fiscales et les optimisations fiscales qui sont autorisées en France depuis des décennies et des aides principalement toujours aux grandes entreprises via les bas salaires.
Mais là, justement, le gouvernement annonce normalement des facilités de crédit pour les restaurateurs via des prêts à taux bonifiés, c'est-à-dire où on ne demande pas de garantie via la Banque publique d'investissement. Là, c'est des annonces d'aujourd'hui.
Entre les effets d'annonce et la réalité, il y a des écarts. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un petit resto, une petite brasserie...
Vous pouvez emprunter de 40 000 à 600 000 euros avec des taux d'intérêt très bas et pas forcément de garantie demandée. Donc là, quand même, il y a une vraie volonté politique.
J'ai rencontré beaucoup de jeunes restaurateurs ou qui voulaient créer une entreprise qui ont été traités aussi bien par la banque à laquelle ils allaient pour chercher, en gros, pour ouvrir un bistrot dans un quartier pas trop cher, 9e, 10e à Paris, il faut mettre 300 000 sur la table. C'est le minimum.
Oui, c'est ça. Alors, même 300 000, vous voyez, et même quand vous dites qu'ils vont vous prêter à taux zéro, etc., ou à des taux bonifiés, c'était un peu comme Oséo avant qui faisait soi-disant des prêts à taux zéro, etc. Et en fait, on s'apercevait que c'était plus compliqué, que ça coûtait plus cher que d'aller à la banque. Donc, moi, je veux bien vérifier les dispositifs.
D'accord.
En dehors des effets d'annonce du gouvernement, il est toujours bon. Moi, je préconisais, vous voyez, on a en France des dispositifs, alors je vais pas le dire, c'est assez compliqué, mais ça s'appelle le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ces dispositifs favorisent principalement les grands groupes qui récupèrent des milliards, 300 millions à la Poste, Sanofi va prendre des dizaines de millions, et les petites entreprises, elles ont rien dans ces histoires, et ça c'est la réalité, ça je le vois.
Vous avez beaucoup truandé le fisc, c'est comme ça que vous dites dans votre livre, Xavier de Namur. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous en avez eu marre? Vous avez envie d'être...
Alors, j'ai pas.
Il a marché jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle.
Alors, j'ai pas truandé beaucoup le fisc. C'est-à-dire que je dis bien, c'est à peu près sur deux affaires, parce qu'il y a eu des affaires où j'ai pas du tout truandé le fisc. Des affaires comme la Belle Entente, j'ai jamais fait un centime de blague. À l'Entour du Temps, jamais fait un centime de blague.
Aujourd'hui, vous êtes omnubilé par les logiciels de caisse, tout doit être transparent, etc.
Je pense que.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?
Ce qui s'est passé, c'est que quand j'achète. Je vais vous expliquer, quand vous achetez une affaire avec une partie en dessous de table et que vous devez rembourser votre sous de table au black à des brasseurs, etc., vous êtes obligé. Et puis, si vous sortez du black tout de suite, ce qu'on m'explique, c'est si vous passez, vous prenez une affaire multipliée par 5 ou 10 le chiffre d'affaires tout de suite, vous avez tout de suite un contrôle qui vous dit, mais attendez monsieur, la chair, vous l'avez pas asséchée. Donc vous avez le fisc qui vient vous voir. Donc on vous dit, il faut en sortir. Déjà, on vous explique qu'il faut en sortir en douceur. Après, l'idée, c'est d'en sortir. Alors, se désintoxiquer, c'est comme un drogué. Vous savez, ça peut prendre un peu de temps. Moi, j'ai pensé qu'il fallait en sortir parce que je pense qu'on n'est pas très à l'aise quand on fait ça.
C'est ça. C'est quoi le cas de conscience derrière?
Au-delà de ça, c'est que, depuis, je dirais, mon enfance, j'ai été quand même un enfant un peu aidé par la République. C'est-à-dire, je raconte dans le livre, puisque c'est autobiographique, que j'aurais pas pu faire des études si j'avais pas été boursier, etc., que si l'école n'était pas gratuite et tout. Donc, je me sens un devoir de rendre, mais en même temps, j'étais dans le système. Et j'aurais pas pu parler de ce système si j'avais pas participé. C'est parce que j'avais participé, j'ai revu tout de l'intérieur, que je puis le raconter aujourd'hui. Mais si j'avais pas participé, on serait toujours dans l'omerta totale. C'est-à-dire, personne parle. Alors, effectivement, je pense que tous les gens avec qui j'ai travaillé, ne goûte pas forcément mes paroles aujourd'hui, parce que je pense pas qu'ils se doutaient, quand vous commencez à travailler au noir dans les entreprises.
Vous alliez tout balancer, c'est ça?
Ils se pensaient pas, oui. Mais parce que je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont pas la possibilité de le faire comme on a pu le faire à l'époque, et que c'est pas bon pour l'économie, et que c'est pas bon pour notre système de protection sociale, et qu'on a laissé, pendant qu'on a truandé un petit peu, chacun de notre côté, on a laissé faire les grandes truanderies des gros groupes, tout ça, pendant des décennies. Optimisation fiscale, les aides sur les bas salaires, les emplois aidés, le crédit d'impôt pour la compétitivité, tout ce pognon, ces dizaines de milliards, puisqu'on dit que l'optimisation fiscale coûterait 60 milliards, alors que nous, c'est peut-être 3-4 milliards. Là. Alors, c'est énorme.
Donc, pas de quoi créer des cas de conscience, finalement, chez vos collègues patrons de bistrot.
Si, je pense qu'il faut que l'État et tout le monde, on change tous ensemble, et à ce moment-là, on y arrivera mieux.
Jean-Paul Genet, dans le milieu de la cuisine, finalement, on est plutôt à droite, ou pas tant que ça?
Oui, et voire à l'extrême droite.
Je vous pose la question, vous êtes journaliste au Monde.
Je sais que dans le milieu là, moi je suis pas vraiment de droite, et j'ai un long passé à Libération. Moi je suis un petit peu regardé, pas comme un ovni, mais pas de problème quoi. C'est valable pour les métiers de la libre entreprise, du commerce, etc. Pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, aujourd'hui, comment on peut savoir? Il y a une façon simple. Moi j'aimerais qu'ils nous expliquent comment marche ce logiciel sur les caisses. Pour savoir qui truande, il n'y a qu'à aller voir le fabricant de caisses, combien il en a vendu et combien il y a de logiciels installés en France. C'est pas plus compliqué que ça.
En quelques mots,
alors,
sur le logiciels de caisse
sur les logiciels de caisse qui permettent de falsifier les comptes et qui remettent les caisses un peu ce qu'on appelle à zéro. Il y a le fisc qui s'est attaqué justement à ce système-là. Donc en ce moment, il y a des ce qu'on appelle rapidement, ils sont en train de mettre des normes sur ces caisses qui seront infalsifiables. Après, c'est l'équipement, c'est
de savoir combien on fait. Tape à la machine et on tape.
Oui, tu tapes des codes sur la machine et puis ça te remet.
Et puis on fait passer un repas, deux repas. Oui,
le nombre de repas.
Ce qu'on apprend, c'est que quand on paye son café, il faut demander un ticket de caisse et vérifier qu'il y a un numéro sur le ticket de caisse.
Alors il faut qu'il y ait le numéro, la date, il y a tout. Mais il y a aujourd'hui le fisc aujourd'hui est en train de mettre en place ce système de caisse. Donc et que en fait, il faudrait qu'il donne un bonus quasiment à tous les restaurateurs en disant équipez-vous de ces caisses. Si vous n'avez pas cette caisse, ça veut dire que sûrement, si vous voulez pas vous la mettre en place, c'est que sûrement vous fraudez. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est que c'est bien de mettre ça, et je pense que le gouvernement veut récupérer du pognon, c'est bien de le mettre en place, mais qu'il faut mettre des dispositifs de baisse de charges salariales, de baisse de cotisations.
Qui sont les marques, toutes les marques.
Oui, j'allais poursuivre la conversation hors antenne. On va peut-être pas non plus faire des pubs pour les logiciels de caisse. Mais enfin, on comprend bien où vous voulez en venir. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons donner la parole à un patron de start-up, Patrick Azdaghi, qui vient de lancer le premier restaurant en ligne à Paris. On en saura un petit peu plus juste après. Zoufri Maracas.
J'ai plus d'argent pour manger, j'ai tout mangé, mon argent m'a intoxiqué, en plus de me casser les dents. J'ai plus de dents pour manger, il me faudrait de l'argent pour m'acheter en entier. Faire des sourires aux gens, je sourirai au monde entier. Faudrait les bonheurs aux gens, mais comme j'ai pas de métier, j'ai besoin de votre argent, l'argent à manger, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau, l'argent à manger, oh. Tu vas courir. J'ai plus d'argent pour manger, pour tout manger mon argent. L'argent que j'avais de côté, l'on bouffait en spéculant. J'ai spéculé sur mon dos, on spéculait sur mes dents. Sur ma femme et sur mon auto, sur ma bouffe et sur mon temps. J'ai plus le temps de manger, mais même si j'avais le temps. Entre bouffe de supermarché, faut bien voir ce qu'il y a dedans. J'ai un conservateur, édulcorant, en colorant. Correcteur d'acidité, rouge de paix émulsifiant. L'argent à manger, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent à manger, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir.
Jean Zoufri Maracas chez 7 milliards de voisins sur RFI, ça discute très très dur dans le studio de RFI entre Xavier Denamur, restaurateur, et JP Géné, chroniqueur au journal Le Monde. Je pense que vous allez effectivement préparer un papier sur les nouveaux logiciels de caisse anti-fraude fiscale dans la restauration française. Nous sommes en ligne maintenant, nous restons dans le domaine de la cuisine, mais cuisine plus technologie. Nous sommes en ligne avec Patrick Azdaghi, ancien directeur général de La Fourchette, premier site de réservation en ligne de deux restaurants. Bonjour Patrick Azdaghi.
Bonjour Yana, bonjour tout le monde.
Vous êtes en ligne avec nous, non pas pour parler du site La Fourchette, mais vous avez lancé il y a deux mois une nouvelle start-up, Food Sherry, premier restaurant en ligne à Paris. Qu'est-ce que c'est qu'un restaurant en ligne ?
Eh bien en fait c'est tout simplement, c'est un restaurant d'abord avant tout, avec des chefs, une cuisine centrale, on fait nos plats frais du jour, tous les jours. La différence c'est que on n'a pas vraiment de serveur, on n'a pas de table, la table est chez nos clients. Et nos serveurs sont des livreurs qui viennent vous livrer vos plats chez vous sur simple demande depuis une app iPhone ou depuis le site web foodsherry.com.
Dans un rayonnement géographique de combien ?
Alors aujourd'hui, on vient de se lancer, on couvre 40% de Paris, plus d'une dizaine d'arrondissements. Et on va couvrir toute la capitale d'ici la fin de l'année.
Donc on fait réchauffer quand le plat arrive à la maison ?
Exactement, les plats sont livrés froids, pas surgelés, mais froids pour garder leur saveur, dans des barquettes adaptées, dans des sacs isothermes. Ensuite, votre serveur vient jusqu'à chez vous. Mmh. Vous êtes notifié par SMS, tout est géolocalisé. En moyenne, on livre en 15 minutes. Voilà, vous avez 3 clics sur votre app, vous êtes livré.
Donc sur des scooters, j'imagine.
Non. Alors, ils sont à vélo. Il faut savoir qu'à Paris...
15 minutes livraison à vélo, c'est pas gagné pour traverser Paris, quand même.
Eh bien, on a des serveurs un peu partout qui maraudent.
Ouais.
Et un peu comme les taxis privés.
Mais ils reviennent à la cuisine centrale chercher les plats.
Non, ils sont déjà, a priori, équipés des plats.
Ah,
plusieurs sacs qui sont faits sur mesure pour cette mission. Et ils maraudent dans les zones de chalandise, dans les zones de couverture de nos clients. Donc en fait, ils sont juste à côté de chez vous. En d'autres termes, on vous livre avant même que vous ayez commandé.
On commande sur Internet, on paye en ligne. On commande quoi? Quel genre de cuisine?
Alors, on fait un peu de tout. On fait des plats qui sont savoureux, équilibrés. On essaye d'avoir vraiment des plats avec un tiers de protéines.
Non, mais c'est-à-dire, donnez-nous des exemples. Là, il y a quoi à la carte aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce soir, on va avoir une salade émincée de bœuf à la thaïlandaise, par exemple. Il y aura tous les jours, on propose un ou deux desserts. Il y a une mousse au chocolat ce soir. Il y a des
donc faites maison la mousse au chocolat.
Elle est faite maison, tout est fait maison, tout est fait dans notre cuisine.
À partir de produits bruts et frais, il n'y a pas de surgelé.
Exactement.
D'accord.
Non, il n'y a pas de surgelé.
Ok. Et alors, c'est un peu le système.
Xavier de Namur.
Oui. Moi, juste l'histoire du maraudage des serveurs avec leurs plats embarqués, c'est un peu de l'Uber Pop de la restauration. Mais comment ces serveurs sont payés? Comment tout ça est rémunéré?
Alors, ces serveurs, effectivement, le système dans l'esprit est assez proche d'Uber. Pourquoi? Parce que
c'est une
digression, mais on rentre dans cette économie on demand, comme disent les anglo-saxons, c'est que vous commandez, vous êtes livré. C'est vrai pour la réservation de restaurants, pour les taxis, pour les hôtels, et c'est de plus en plus vrai pour la nourriture, l'alimentation.
Jean-Paul Génier, vous voulez questionner Patrick Asdaghi?
Si j'ai bien compris, je voudrais faire préciser. Actuellement, là, disons, moi je suis dans le 9e arrondissement, et j'ai des gens en vélo qui pédalent ou qui sont stationnés dans Paris, qui peuvent être à l'Opéra, Lafayette, sur les grands boulevards, avec dans leur sacoche votre mousse au chocolat, votre émincé de bœuf, 12 ou combien vous calculez, 2 ou 3 de chaque, et puis qui tournent dans Paris, ils attendent un coup de téléphone, vous les appelez, puis vous leur dites « Ah, au 12 rue Lafayette, il faut aller amener un émincé de bœuf ». C'est comme ça que ça marche?
C'est ça, mais on le fait de manière encore plus moderne. C'est qu'ils ont, ils sont chacun équipés d'un smartphone Android. Et en fait, on a un algorithme qui dispatche automatiquement les commandes en fonction de leurs coordonnées GPS.
C'est ce qu'on appelle la food tech, cuisine plus technologie.
Alors, moi, j'ai une question. Ce qui m'intrigue, c'est cette espèce de garde-manger roulant qui traîne comme ça. Qu'est-ce que vous en faites quand il en reste le soir?
Déjà, nos livreurs, enfin, qui sont des serveurs, on les appelle pas des livreurs, mais sont des vrais serveurs qui viennent jusqu'à chez vous, sont non seulement rémunérés normalement, mais en plus, ils peuvent manger les plats. Nous-mêmes, quand il en reste, nous, on travaille le soir, donc il est normal qu'on puisse manger. Et voilà, on essaie d'ajuster au mieux les volumes pour qu'il y ait le minimum de waste.
Vous avez vu des startups de ce type déjà aux États-Unis, c'est ça, en Californie?
Alors tout à fait, l'inspiration m'est venue en voyageant dans la Silicon Valley. C'est toujours intéressant de voir qu'en Californie, même sur ce sujet-là, la gastronomie, l'alimentation, ils ont quand même une avance intéressante. Et cette avance vient du fait qu'ils ont réussi à mixer, à combiner l'alimentation et la technologie.
Votre clientèle, ça va être quoi? Des cadres sup qui rentrent tard le soir chez eux, exténués, qui en ont marre de faire décongeler des pizzas?
Exactement, c'est le cadre actif urbain, trentenaire quadra, à la limite c'est transgénérationnel, là je n'ai pas tellement segmentant. Des gens qui travaillent beaucoup, qui rentrent chez eux et qui veulent sauver du temps pour être avec leurs proches, faire autre chose, mais qui n'ont pas le temps ou la motivation de faire la cuisine et qui sont conscients qu'ils ne mangent pas suffisamment bien aujourd'hui.
Il faut du pouvoir d'achat quand même.
Alors justement, un point très important, c'est que tous nos plats sont à 9,90, moins 10 euros livrés.
Donc l'émincé de bœuf là dont vous nous parliez tout à l'heure en salade, c'est bien ça?
Voilà, il vous est livré à 9,90 avec le sourire.
Oui, c'est moi je veux bien. On peut venir visiter la cuisine centrale pour voir qu'est-ce que vous utilisez comme produit et tout. Est-ce qu'on peut lancer une invitation qu'on peut venir? On peut venir visiter.
Bien sûr. D'ailleurs, on est dans le 9e, donc.
Peut-être je pourrais faire une petite visite avec JPGN si ça te branche.
Vous savez, Patrick Asdaghi, on a beaucoup parlé de l'économie au noir, souterraine, hors fiscalité, dans la restauration, dans les bistrots parisiens. Là, on paye sur Internet, en fait. On paye en ligne.
On paye en ligne. On n'a pas de cash, en fait.
Ouais.
Nous, tout est dématérialisé.
Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire dans mon bistrot parisien.
Oui, mais je sais pas si... Alors, je connais pas le nombre de repas qui sont servis, mais nous, on sert des millions et des millions de repas dans la restauration traditionnelle. Vous êtes à combien de repas? C'est ça, l'idée, c'est de combien vous servez aujourd'hui? Vous venez de lancer votre application?
Alors, nous, on vient juste de se lancer, donc les chiffres que je vais vous donner sont pas significatifs de...
Deux mois d'existence.
Mais on n'a que deux mois d'existence.
C'est de quelle heure?
On n'a pas encore fait de marketing. De quelques centaines par semaine. Et je pense que d'ici l'automne, je serai à quelques centaines par par soir.
Bon, affaire à suivre, hein, mais on voit bien que la restauration fait partie de ces secteurs qui se régénèrent en permanence. Les start-up sont arrivées dans le domaine de la restauration.
Ça, là, pour l'instant, pour moi, ça reste du traiteur. Hein. Pour moi, c'est pas de la restauration, ça reste du traiteur. Pour moi, être au restaurant, c'est que le client vienne dans le restaurant, soit enchanté, passe un moment. C'est vraiment avec les autres. Le restaurant, c'est vraiment cette idée d'être dans la convivialité et ensemble. C'est ça toute la différence avec le traiteur à la maison. Et puis que vous ayez vraiment en face de vous des professionnels qui vous expliquent dans la cuisine, etc. Tout le monde peut vous dire d'où viennent les produits, comment ils sont faits, le chef est là, etc. Ça, c'est pour moi, c'est la restauration. Après, c'est du traiteur.
Patrick Azdaghi, merci d'avoir été en ligne avec nous. Donc, vous lancez Food Chéri, premier restaurant en ligne à Paris qui a 2 mois d'existence maintenant. On arrive bientôt au terme de cette émission. Jean-Paul Genet, chroniqueur gastronomique pour le journal Le Monde. La restauration a souffert de la crise de 2008. Aujourd'hui, qu'est-ce qui émerge finalement de la baisse du pouvoir d'achat, de cette économie, même si le secteur alimentaire se porte pas trop mal? Aujourd'hui, c'est quoi les points positifs finalement? Qu'est-ce qui ressort en termes de résilience?
Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens se tournent plus vers la cuisine à la maison. Ça a peut-être incité aussi les gens à tout le développement des circuits courts, des AMAP, des paniers de cocagne et 10 000 circuits. Je pense que ça a une influence. Les déboires de la restauration et les déceptions et les prix aussi.
Xavier de Namur, il faut vous lire, lire votre autobiographie.
En 5 secondes, les auditeurs peuvent, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter le livre qui peut se trouver sur Amazon en numérique,
en
ligne sur Caféine. Ils tapent Caféine, CAFEINE.com. Il y a les premières pages du livre gratuites, docu gratuit.
Tout est noté sur le site RFI.fr la page des 7 milliards de voisins. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des faux diplômes, des CV en toc ou largement embellis. Le mensonge est-il omniprésent dans le recrutement ?